Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
J'ai fait un métier de mon choix. Donc ça, je pense que quand on travaille de longs horaires et quand on aime ce qu'on fait, c'est pas vraiment une difficulté. C'est excitant. Le matin, je me lève, j'ai envie d'aller au boulot.
Bienvenue dans Takeoff, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là pour cette deuxième saison de plus en plus nombreux. Le salon où me reçoit Ning Li est à l'image de Made.com, le site de vente de mobilier par internet qu'il a créé il y a bientôt 10 ans. Le design épuré et élégant sublime une lumière qui invite à la quiétude. Une tasse de café fraîchement moulu repose sur une table réalisée à partir d'une ancienne porte chinoise. Ce mardi matin précède de quelques jours l'arrivée du printemps. Il est encore tôt et le jeune papa, tout sourire, prépare une journée rythmée par sa nouvelle start-up, Typology. Cette marque de cosméto casse les codes du secteur avec la promesse d'une transparence absolue, née du questionnement sur les produits utilisés pour son enfant. Nous sommes à Paris, je suis Guillaume Brégeras et je vous invite à mes côtés pour converser avec Ning Li. Bonne écoute.
Eh bien, écoute, bonjour Ning.
Bonjour Guillaume.
Merci de me recevoir chez toi,
merci
à Paris.
Merci de venir chez moi.
pour ce nouvel épisode de Takeoff, saison 2. Et écoute, je commence toujours un peu par la même question cette saison, c'est à savoir quelle est ta routine le matin ?
Ah, quelle est ma routine le matin ? Écoute, on a une petite fille de bas âge, donc c'est elle qui nous réveille en général assez tôt, donc on se réveille pour jouer un peu avec elle, on tourne un peu entre ma femme et moi. Ensuite je pense qu'on est toujours le temps passe vite avec elle, on essaie de se dépêcher pour aller prendre un café et aller au bureau quoi. On prend un petit déj quand on peut, mais souvent on se dépêche d'aller au boulot parce qu'on a envie de commencer tôt au bureau, tous les deux. Voilà.
Ça, c'est une chance. Vous êtes tous les deux dans ce milieu-là. Ce n'est pas forcément le cas. Ma question, c'est comment ça change aujourd'hui donc, tu crées, on va en parler, ta troisième entreprise.
C'est ça.
La première, tu étais vraiment très jeune. La seconde, donc forcément un peu moins jeune, et tu es parti à Londres la faire. Là, tu es jeune papa. Donc, qu'est-ce que ça change aujourd'hui d'être dans cette situation pour monter une start-up ?
C'est sûr que quand on a une vie de famille et quand on monte une boîte, on n'a pas les mêmes horaires. La première boîte, même la deuxième, au début, on travaillait vraiment 24 sur 24. Je me rappelle, au début de Made.com, j'avais un de mes cofondateurs qui habitait dans mon salon. Donc, il a dormi sur mon canapé pendant 6 mois. Et forcément, quand tu étais dans cette situation-là, tu passes ta vie au bureau et quand tu rentres, tu reparles du boulot. Et c'est très différent quand on a une famille, etc. Par exemple, parfois, je suis obligé de rentrer, entre guillemets, plus tôt, vers 6-7 heures. Parce que, voilà, il faut récupérer l'enfant de la nounou, etc. Et du coup, en fait, ça t'oblige à t'organiser beaucoup plus. Et en théorie, tu fais beaucoup moins de conneries que quand tu étais plus jeune. Mais ça, c'est que la théorie. Et j'attends de voir si c'est le cas ou pas.
mais tu penses que tu es plus efficace aujourd'hui qu'il y a quelques années ?
Entre ma première boîte et ma deuxième, quand j'avais commencé ma deuxième boîte qui est Made.com, je me suis dit, j'ai fait pas mal de conneries dans ma première boîte, je vais essayer d'en faire moins et être plus efficace. Et le résultat, c'est qu'on a fait beaucoup moins d'erreurs que ce qu'on a fait dans la première boîte, mais on a fait d'autres erreurs derrière. Donc, parce que le monde, surtout quand on évolue dans la tech, ça bouge tellement vite que ce que tu as appris du premier projet n'est pas vraiment applicable au deuxième. Et en fait, un des pièges que j'essaie de ne pas tomber là-dedans, pour moi en tout cas, c'est de dire, je sais déjà ce que j'ai fait. Puisque en fait, en 5 ans, voire 10 ans, le monde a complètement changé. Dans le cas de Made, par exemple, quand on avait commencé, quand on crée une marque, on pouvait tout à fait encore... il suffisait en fait d'acheter de la publicité de manière efficace et pas chère pour construire une marque. Et aujourd'hui, je pense que le monde des consommateurs, en tout cas tel que je perçois, a beaucoup évolué et les gens sont beaucoup plus sceptiques maintenant de la publicité. Acheter la pub pour construire une marque, c'est probablement beaucoup plus difficile aujourd'hui sans que la marque ait un sens, sans que la marque résonne vraiment avec le consommateur. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'à chaque fois que je monte une nouvelle boîte, c'est un nouveau challenge, mais aussi un apprentissage de zéro. C'est ça qui m'excite le plus.
Et donc tu repars de zéro
Quasiment, oui, je pense. Ouais. Je considère qu'on part de zéro, puisque Typologie, ma nouvelle marque de cosmétiques, dans une industrie que je ne connais pas. C'est la cosmétique. Alors, je viens du meuble, ça ne peut pas être plus loin les uns des autres. Mais après, il y a beaucoup de similarités dans l'approche, en tout cas dans mon approche de regarder une industrie. Ce que j'aime bien, en fait, c'est de regarder une industrie énorme, mais où il y a beaucoup d'inefficacité. Surtout, ça, c'est plus clair quand on est en dehors de l'industrie est beaucoup moins clair quand on est là-dedans. Donc, ça, c'est le regard externe que je trouve intéressant dans mon approche. Après, le monde de la cosmétique, je ne connaissais pas. Donc, j'ai dû passer du temps à comprendre. Pour l'année passée, quand on a passé presque un an à faire du R&D et de préparation du projet, j'ai aussi passé beaucoup de temps à rencontrer les gens du secteur. J'ai passé plus de centaines d'entretiens pour rencontrer les gens qui travaillent dans les grosses boîtes.
Ils ont accepté volontiers de te rencontrer alors que tu étais dans un projet qui pouvait potentiellement les concurrencer ?
Alors, je les rencontrais aussi dans un but de les recruter. Donc, c'est un peu différent. Bien sûr, tous ne fit pas dans mes critères. En tout cas, ce qui est en ressort, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont très bien formés dans les très grosses boîtes. C'est quand même le pays de la cosmétique. Et beaucoup sont frustrés dans les grosses boîtes de la cosmétique, les FMCG, parce que ça bouge très, très lentement. Et ils ont envie que ça bouge. Ils ont envie de créer un impact. Et c'est sûr que quand tu es un chef de produit dans une très grosse machine où il y a 20 000 personnes qui s'occupent des marques, ton effort n'est pas forcément visible à la fin. Et quand je les contacte, en fait, ils sont souvent curieux de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Et quelques-uns ont fini finalement à rejoindre l'équipe.
Donc ceux qui t'ont suivi, quels ont été les arguments ? Tu te souviens de ton premier recrutement justement pour Typologie ?
Bien sûr, oui.
C'était qui ?
Alors c'est un chef de produit en fait qui vient de chez L'Oréal. Je me souviens en fait pour lui comme pour plusieurs autres, ce qui les a attirés dans le projet, et il n'y avait même pas de nom à l'époque, c'était surtout le fait de pouvoir créer un produit entre l'idée et la mise au marché en quelques mois. Chez L'Oréal, c'est typiquement entre 2 et 3 ans. Et ce n'est pas parce que c'est pas forcément le temps de R&D qui est long, mais probablement beaucoup de temps de prise de décision. Et beaucoup de temps de faire les études clients en amont pour savoir si on fait ou on ne fait pas ce produit-là. Et en fait, pour nous qui sommes une start-up, le plus gros risque, ce n'est pas qu'un produit se lance et échoue, c'est plutôt le fait qu'on n'a pas trouvé le produit qui aurait cartonné si on ne l'avait pas fait. C'est plutôt le coût d'opportunité pour moi qui compte que le coût d'échec. Puisque quand on est petit, on n'a vraiment pas grand-chose à perdre. Et dans les grosses boîtes, ils raisonnent vraiment à l'inverse. C'est que s'ils lancent un produit et que ça ne marche pas, combien ça leur a coûté Donc c'est vraiment une approche inverse qui les attire, surtout les jeunes.
Donc pour revenir à la genèse de Typologie, à quel moment tu te dis c'est ce secteur que je vais adresser, parce que tu aurais pu, il y en a plein industries. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu vraiment que ce soit celui-ci? Et est-ce que tu te rappelles à quel moment ça s'est déclenché?
Je pense qu'il y a un peu de tout. J'ai pris un peu de recul dans des opérations de Made.com pour revenir à Paris. Et j'ai mis un peu de temps à rechercher un peu mon... Donc, au début, en fait, je me suis dit, je vais faire un peu d'investissement pour aider un peu les startups. Et je me suis vite ennuyé. Je me suis vite rendu compte aussi que l'investissement, c'est un métier et c'est probablement pas encore le mien. Et ce que je sais faire, et ce que j'aime faire surtout, c'est de lancer des nouveaux projets, mais vraiment le début des nouveaux projets. C'est ce que j'aime le plus. C'est ce qui est le plus dur, mais ce qui m'excite aussi le plus. Alors, pour la typologie, ce qui m'a surtout interpellé au début, c'est quand je regardais plusieurs secteurs. Et entre-temps, on a eu une jeune bébé, comme tu le sais. J'ai pris un produit un jour qui est une crème pour bébé et j'ai retourné cette crème et j'ai commencé à lire la liste d'ingrédients qui est écrit au dos. Mais je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est tout ça? Et je vais commencer à rechercher. J'ai pas pris peur tout de suite, j'ai commencé à rechercher un peu les mots-clés sur Google et c'est là où j'ai vu toutes sortes d'informations ou de désinformations. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de se mettre sur la peau? Et donc, ça m'a interpellé pour rentrer là-dedans, pour faire un peu plus de recherche. Mais surtout, ce qui m'a, une fois que j'ai commencé à creuser, ce qui m'a le plus interpellé aussi, c'est le monde, la quantité de publicité dans laquelle on est entouré. Il n'y a pas une fois que je sors de chez moi. Avant, je ne faisais pas attention. Maintenant, je le fais. Je fais attention à ça. Le nombre de pubs qui disent crème miracle, crème anti-âge qui te fait rajeunir de 10 ans. Et je me suis dit, est-ce que je suis la seule personne à ne plus croire à ces publicités? Parce que franchement, la crème qui te fait rajeunir de 10 ans, si ça existait...
Elle serait déjà milliardaire.
Exactement. Ouais. Donc, et pourtant, on vit que là-dedans. On est entouré de pubs de cette façon. Donc, je me suis rendu compte que c'est une façon pour l'industrie de créer une promesse et ensuite mettre beaucoup, beaucoup de pubs pour faire en sorte que le message passe. Et dès lors qu'on assure un peu de distribution, on écoule le produit. Sauf qu'entre-temps, en tout cas pour moi et mes amis, je pense qu'on a beaucoup évolué. Et on est devenu de plus en plus sceptique par rapport à ces messages qui sont souvent des fausses promesses. Voilà, faut dire ce que c'est. Et pour autant, les grandes marques, les grands groupes n'ont pas évolué pour s'adapter, en tout cas pour ce besoin de transparence, ce besoin de santé, ce besoin pour les consommateurs de savoir qu'est-ce que vous mettez vraiment dans les produits. Est-ce que les produits sont sains pour moi, plutôt que est-ce que ce produit va pouvoir me faire rajeunir encore de 10 ans ou pas? Voilà, c'est de ce constat qu'on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une marque aujourd'hui avec une éthique radicalement différente, beaucoup plus transparente, alors que beaucoup de marques dans le passé sont créées pour plutôt vendre des... C'est ce qui s'appelle le mot marketing, créer des promesses. Voilà. Nous, on est plutôt.
Une promesse.
Voilà. On voudrait créer une marque sans équipe marketing. Vraiment, les gens qui conçoivent les produits pour vraiment dans l'efficacité et dans une intégrité de formulation avec un souci de santé. Et c'est vrai que quand on commence de zéro aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut faire un brief de formulation en excluant beaucoup d'ingrédients qui sont douteux ou sur lesquels les gens peuvent se poser des questions.
Tu appliques la précaution, le principe de précaution.
Bien sûr, je ne suis pas chimiste moi-même, mais il y a beaucoup de recherches qui sont faites par les chercheurs qui plus ou moins aboutissent, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ingrédients sur lesquels on se pose la question. Et une des choses qui est très, très frappant, c'est que quand on met au marché un produit cosmétique, souvent on fait des tests pour la mise au marché. Et ces tests-là se font souvent sur 2 semaines, par exemple. Or, quand on vous vend une crème, c'est pas sur 2 semaines que vous mettez, c'est parfois sur des années. Mmh. Et la conséquence de ça est très inconnue, en réalité. Donc, puisqu'il y a un manque d'études là-dessus, on préfère prendre vraiment les ingrédients les plus sûrs possibles pour la santé. Donc, en fait, typologie, c'est moins un produit, c'est moins un projet de la cosmétique, mais c'est plus un projet, je dirais, de la santé.
Et donc, pour financer ce projet, c'est évidemment clé pour les startups. J'imagine encore plus pour ce type de projet qui demande beaucoup de liquidité au départ pour pouvoir rechercher, etc.
Oui.
Donc, je crois que tu as eu la chance d'avoir rapidement des forts soutiens puisque tu as levé 10 millions d'euros. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé parce que notamment parmi les investisseurs, on va le dire, il y a Xavier Niel, il y a Marc Simoncini. Marc Simoncini, c'est l'une des figures emblématique de ton parcours, on va peut-être y revenir. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui leur as proposé le projet? Est-ce qu'ils ont tout de suite adhéré? Est-ce qu'il y a eu des questions, des réticences? Comment ça s'est passé?
Oui, en fait, pour monter ce projet-là, il faut... Typologie, c'est avant tout un projet de produit, donc c'est un projet de R&D. Il fallait passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent, dépenser beaucoup d'argent pour faire une nouvelle gamme de produits qui n'existait pas sur le marché. Donc, on a une équipe maintenant de 13 personnes, et la plupart d'entre eux qui sont les experts ou les formulateurs de produits. Donc, ça coûtait très cher comme projet. Et on veut lancer aussi des centaines de produits cette année. Donc, c'est un projet assez ambitieux dans l'échelle par rapport à une marque qui se lance en moyenne aujourd'hui. Et pour ça, en fait, il fallait surtout trouver les gens qui ne sont probablement pas de l'industrie, parce que c'est un peu le constat que je me suis fait en parlant à des gens qui sont dedans. La réaction est assez différente. C'est les gens qui ont probablement une expertise, mais qui ont aussi un peu de peur presque de changer trop le système. Donc il fallait en fait trouver les investisseurs, les associés qui sont en dehors du système de la cosmétique, mais qui sont les innovateurs et les gens qui n'ont pas eu peur de changer leur propre secteur de leur côté. Donc les entrepreneurs comme Marc Simoncini qui m'ont toujours accompagné, et puis comme Xavier Niel également, bien sûr, ont été vraiment des soutiens qui sont parfaits pour moi. Et de plus que ça, comme tu le sais, j'ai vécu la plupart de mes 8 ans sur 10 de mes 10 dernières années à Londres. Donc, l'écosystème français, je le connais, mais je le connais beaucoup moins que quelqu'un qui aurait passé la plupart de leur vie ici. Donc, il me fallait aussi des gens qui pourraient, en quelque sorte, me réintroduire et m'ouvrir les bonnes portes. Donc, c'était vraiment une bonne chance d'avoir tous ces gens-là.
Mais il y a une forte prime, on le voit régulièrement dans nos échos, dans les levées de fonds notamment, au serial entrepreneur. Celui qui a réussi, c'est vrai qu'on lui accorde tout de suite plus de fonds, plus de confiance. Et pour autant, ce n'est pas forcément un gage de réussite.
Non.
Malheureusement,
c'est aussi vraiment pas. Il n'y a pas forcément de corrélation, malheureusement.
Et lorsque tu présentes on va parler de Marc Simoncini un petit peu. Lorsque tu lui présentes le projet, est-ce qu'il te donne un blanc-seing? Est-ce qu'il adhère tout de suite et il te dit, tu aurais pu lui proposer un projet dans un autre secteur et tu aurais dit oui? Ou vraiment, il t'a challengé un petit peu?
Je ne peux pas parler pour Marc, faut que tu lui poses la question. Mais Marc, c'est toujours la personne qui dit oui. Pour moi, en tout cas, quand je propose les projets, ce n'est pas un fonds. C'est un investisseur qui a un fonds, mais c'est 100% son argent. Je me rappelle au début de Made, c'était aussi le premier investisseur qui a dit oui pour le projet. Je pitchais au début, depuis Londres, le projet de Made.com. Je pitchais pendant longtemps à des VC. Bon, parfois, ils prennent un peu de temps et c'est vrai que quand on n'a rien à montrer, c'est beaucoup plus dur. Et Marc, c'est la personne à qui j'ai parlé vendredi. Et lundi, il a dit oui. Donc, c'est quelqu'un qui réagit, qui a un très bon instinct et qui fait confiance. Et pour le projet de typologie, c'est sûr que c'est un secteur comme... Il sait très bien que je ne suis pas expert là-dedans. Mais comme je t'ai dit, c'est les innovateurs qui comprennent la valeur d'un regard externe. Et c'est quand même aussi avant tout un projet d'e-commerce que je connais un peu. Mais j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Marc comme mentor, mais aussi comme investisseur.
Oui, parce que tu l'as rencontré très très tôt dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter les conditions un peu de cette rencontre ?
J'étais son stagiaire. J'étais son stagiaire.
À l'époque de Mythique.
C'est ça, oui. C'était l'époque de Mythique. J'étais dernière année dans une école de commerce. Donc je l'ai approché pour proposer un stage. Normalement qu'il n'aurait pas accepté puisque j'imagine qu'il était très très sollicité, mais j'avais la chance à cette époque qu'il venait d'acheter une boîte de rencontres en Chine. Et donc ça tombait très bien qu'il y avait un étudiant chinois qui lui propose de faire un stage, donc ça, c'était pratique pour lui de me prendre là-dedans dans le projet et travailler donc directement avec lui. J'avais cette chance incroyable en sortant à peine de mon école pour l'aider à intégrer en fait la boîte qu'il avait rachetée.
D'accord.
C'était un peu comme on s'est rencontrés. Oui.
Et au moment de Net.com, tu l'as rappelé, il a été investisseur. Donc c'est quelqu'un qui te suit, et ça m'amène à une autre question, parce que en regardant un petit peu ta bio et en parlant aux gens qui t'entourent, il y a quand même des rencontres qui ont jalonné ton parcours, qui ont été clés. Et ça remonte même à la personne qui est venue en Chine. Tu as habité en Chine jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans. Raconte-nous un peu déjà cette rencontre qui a fait que de tes premières années en Chine, tu as basculé en Europe.
Oui.
Et est-ce que tu crois au hasard dans ces rencontres ? Est-ce que pour toi, ça relève du hasard tout ça ?
Bien sûr, il y a une grande part d'hasard. Mais après, je pense que il y a aussi probablement il y a aussi une volonté de ma part, une conscience que je suis un étranger dans un pays que je connais pas, et seul je ne pourrais jamais réussir. Donc il fallait trouver les alliés, les gens qui pourraient m'aider. Et j'avais la chance d'avoir toutes ces rencontres qui ont un nom, qui ont une expérience, qui ont un parcours, qui m'ont soutenu dans le parcours. Et ça, en fait, en commençant par la première personne qui est venue me chercher en Chine, j'avais 16 ans, Monsieur Kaminski d'une école en Normandie, qui m'a ramené dans son école. Je me souviens, je suis descendu de l'avion et j'étais la première personne de ma famille à avoir mis les pieds en France. Personne d'autre connaissait la France avant, donc c'était vraiment un hasard.
Quelle image tu avais, toi, de la France à l'époque ?
Moi, pour la France a une image incroyable à l'étranger. Et pour moi, c'était le pays de la poésie, le pays des parfums, le pays de bon vin, de bonne vie. Et sauf que je ne parlais pas un seul mot français. Je me rappelle, il y avait le taxi qui est venu me chercher à Charles de Gaulle, qui m'a directement ramené en Normandie. Et je ne connaissais pas de mots français, je ne savais même pas comment manger un plat français. Donc c'était 5-6 heures de l'après-midi, donc c'est l'heure de dîner à la cantine, donc directement à la cantine. Et on m'a servi un plat de spaghetti bolognaise. Voilà. Sauf que je ne me servais que des baguettes. je ne savais pas bien manger. Vous savez, en Chine, on prend un bol et on mange avec les baguettes comme ça. On soulève le bol. Et donc, je prenais l'assiette. Je ne pouvais pas soulever l'assiette. Donc, je mettais ma tête sur la table et je mangeais comme ça. J'étais un peu la curiosité déjà des élèves français. Ils disent, c'est qui ce Chinois ? Après, ils me regardaient, mais... Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc voilà, j'étais un peu c'était un peu la rigolade de l'école.
La curiosité.
C'était un peu ça, ouais.
Voilà. Mais tu t'en gardes quel souvenir de ces premiers instants, de ces premiers mois en France, en Normandie, qui n'était pas forcément plus l'image que tu pouvais avoir de la France, qui était forcément très liée à Paris. Quel souvenir tu en gardes?
Non, c'est la campagne, donc c'est pas du tout l'image que j'avais de Paris, de France, qui était plutôt Paris. Je garde un très bon souvenir, sauf que moi, ce que je m'attendais de moi-même, en tout cas, pour cette époque, c'est de découvrir la grande vie à Paris. C'est de venir à Paris, c'était un peu ça le but. Mais j'ai des mineurs, j'avais 16 ans, j'avais pas de garant ou tuteur qui m'aidait à venir à Paris. Et c'était aussi surtout une école privée qui coûtait très très cher. Mes parents sont étant d'une famille moyenne, ils sont confortables à Paris, mais pour de payer une école privée ici, c'est vraiment des années d'économie pour eux. Donc je me sentais mal. Je voulais surtout venir à Paris, sauf que j'avais pas forcément de relations ou de connaissances ou de famille. Donc, je suis venu dans le quartier chinois pendant une vacance scolaire. Je suis allé frapper à les boutiques pour trouver un boulot. Et la première boutique à qui j'ai demandé de l'aide, c'était une boutique qui s'appelle Pâtisserie de Choisy. Il se trouve que c'est les gens qui venaient de ma ville en Chine. Et donc, dans mon deal, c'était que je travaillais pour eux pendant les vacances, les week-ends. Et en échange, ils me nourrissaient, ils me logeaient, voilà.
C'est comme ça que tu as.
C'est comme ça que j'ai pu venir. Alors ils ont dit oui tout de suite, mais probablement pas par le deal que je leur proposais, mais puisque ils ont eu pitié de moi, je pense. Ils m'ont pris dans la famille. Ça m'a permis de venir à Paris et trouver une école publique gratuite par la suite. C'est comme ça que j'ai pu.
Tu les vois toujours ces gens?
Bien sûr, je les vois tout le temps. Ils sont venus à mon mariage. C'est vraiment c'est comme la famille. Voilà.
D'accord. Et est-ce que à un moment donné, dans ces toutes premières années, est-ce que tu regrettes d'avoir venu en France? Est-ce que tu te dis, est-ce que je me suis embarqué dans quelque chose finalement qui ne me correspond pas? Est-ce que tu as eu des doutes?
Est-ce que j'ai eu des doutes? C'est sûr qu'au début, quand on ne parlait pas un mot français, c'est un peu dur. Moi, mon but, c'est de passer le bac ici. Sauf que je pensais que j'avais 2 ans pour passer le bac. J'étais venu à l'âge de première et en arrivant, je me suis rendu compte que j'avais qu'un an parce que c'est
le bac de français.
J'ai passé le bac à la fin de première et j'avais un peu paniqué. Donc bac de français, si je rate ça, voilà.
Et que tu as eu?
Je l'ai eu de tout juste, vraiment de tout juste justesse.
Mais tu l'as eu.
Je l'ai eu. Je l'ai eu parce que j'avais un dictionnaire franco-chinois avec moi. Et ça m'a permis d'apprendre le français vraiment en bourrinant le dictionnaire. Je prenais la première feuille de dictionnaire, je soulignais. J'apprenais 300 mots et j'en oubliais 280. Mais j'en retenais 20. Et c'est comme ça que je suis, à force de bourriner le dictionnaire à la fin, apprendre le français.
Voilà. Que tu parles aujourd'hui très bien, je pense que tout le monde peut l'entendre. C'est aussi à ce moment-là que tu as tes premières expériences liées à l'entrepreneuriat. Je crois qu'il y a une petite anecdote que tu rencontres parfois sur les photos scolaires. Je crois. Parce que c'est important de la raconter celle-ci pour qu'on comprenne.
Oui, en fait... Je crois que au début de, en tout cas, le niveau de vie en Chine étant beaucoup plus bas, en tout cas à l'époque, de ce qu'il y a en France, ça m'a toujours frappé à quel point les prix sont chers. Bon, quand on convertit, bien sûr, avec la monnaie chinoise, et à un moment, en fait, il fallait faire des photos de classe, et je me rappelais, c'était 10 euros le prix. La première année, j'ai payé. La deuxième année, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai pas payé 10 euros. Je vais faire ma propre photo. Voilà. Je sais que voilà, ça coûte 50 centimes de faire développer une photo à la Fnac. Donc, je suis venu avec un trépied, j'ai pris une photo de classe. Et après, je suis allé à la Fnac pour développer la photo donc, que j'ai pris en même temps que le photographe. Sauf que la proposition de l'école est venue et le deal était. La photo coûte 10 euros, mais il fallait un mois et demi pour la recevoir. Mais c'est pas possible. Donc, je vais faire un deal à mes élèves, puisque j'avais la négative. Je dis, si je vous vends la photo la même pour 5 euros, moitié prix, et je vous la livre en 3 jours, combien d'entre vous voudraient la photo? Et sur une classe de 48 personnes, il y avait 47 personnes qui se sont converties à la proposition. Donc, j'ai fait un bénéfice de 200 euros. Voilà. Bien sûr, je suis à la FNAC, j'avais la négative et j'ai livré la photo en 2 jours. Et c'était mon premier deal, en quelque sorte, que j'ai fait en commercial, en cassant le prix.
Très joli.
D'une sorte de monopole, parce que le photo de classe, c'est une monopole.
Bien sûr.
Voilà. Sauf qu'après, donc, j'ai fait ce bénéfice sur mes camarades de classe. Mm-hmm. Donc, ça m'a fait un peu la peine de faire. Je me suis dit, bon, c'est, quand même, c'est un deal. Donc, j'étais un businessman. Mais comment transformer ça dans quelque chose de plus durable, plus pérenne? Mm-hmm. Donc, j'ai décidé d'investir les 200 euros mm-hmm. dans une machine à café et une bouilloire. Très simple, voilà. Puisqu'en fait, dans les écoles, tu sais, le seul moment où les endroits où tu peux acheter des cafés, c'est les machines à café.
Bien sûr.
C'est payant. Et 50 centimes le café, pareil. Bah, je me suis dit, déjà, on va faire du café pour nous-mêmes, donc gratuit. Mais pour que ça dure un peu dans le temps, il faut quand même qu'on fasse des bénéfices. Donc, qu'on facturait en fait 20 centimes le café à des élèves qui sont de classe à côté.
Pas ceux de ta classe.
Voilà. Non, non. De ma classe, c'est gratuit, etc. On avait fait les bénéfices suffisants pour couvrir l'année. Mm-hmm. Surtout sur le bénéfice des autres classes à côté.
Est-ce qu'ils sont autant à être devenus clients de Made.com et...
J'espère que oui. Puisque en tout cas, c'était surtout marrant puisqu'on s'est bien marré. Et j'ai découvert aussi surtout la différence entre le businessman mm-hmm. qui fait un coup, mm-hmm. voilà, qui fait un paquet d'argent et qui part, mm-hmm. qui est cool, mais beaucoup moins cool que si tu utilisais ça en tant que capital et faire un business qui dure dans le temps.
Donc ça, c'est ta première expérience. Est-ce que rapidement après, dans ton esprit, se forme l'idée que c'est ce que tu veux faire comme métier? Est-ce que tu veux en faire ta vie?
Non, pas du tout. En fait, quand je sortais de l'école, je suis enfant unique de ma famille, comme toute ma génération d'ailleurs. Et en Chine, on n'a pas vraiment de système de sécurité sociale comme en France. La sécurité sociale en Chine, c'est les enfants. Donc je suis la sécurité sociale et la retraite de mes parents. Mmh. Et donc j'avais non seulement un risque, mon risque surtout, c'est de ne pas pouvoir leur payer leur pension. Mmh. Sachant qu'ils ont vraiment tout sacrifié pour m'envoyer en France, pour payer mes études, etc. Et donc, mon drive, quand je sortais de l'école, c'est de trouver un métier qui paye bien. C'est vraiment financier. Sauf qu'en allant dans mes premières expériences dans les cabines de conseil et en banque, banque d'affaires, pour vraiment les métiers qui payaient le mieux de l'époque, et toujours qui payaient très bien, je me suis rendu compte, c'est pas du tout... Enfin, je suis fait tout sauf... pour ce milieu-là qui est très austère et surtout qui est très traditionnel, qui n'est pas du tout qu'un individu sort du cadre.
Et très codifié.
C'est ça, tout à fait, oui.
Et donc, à quel moment tu as ce déclic de te dire, bon, c'est pas fait pour moi, il faut que je fasse autre chose, je monte ma boîte.
C'est un peu le contraire, en fait, c'est par exclusion. Je n'aime pas ça, je suis probablement fait pour le contraire. Et le contraire... étant créé une boîte moi-même.
Et tu te souviens de ce moment? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bon allez, ça y est, je prends le risque? Parce que comme tu l'expliquais bien, tu avais quand même cette nécessité et cette volonté d'avoir un revenu confortable. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu te souviens clairement que là, tu t'es dit, la banque c'est fini, il faut que j'aille vers autre chose?
Moi, j'avais créé ma première boîte qui s'appelait MyFab avec un ancien collègue de la banque dans laquelle je travaillais en tant que stagiaire pendant un an. Et j'avais bien sûr la possibilité de continuer dans la banque après. Et pourtant, j'ai choisi de quitter le boulot confortable de la banque. Et mes parents ne comprenaient vraiment pas. Ils disaient, mais franchement...
Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas le succès des boîtes chinoises comme aujourd'hui. On pouvait se dire...
Les parents chinois sont... Bon, ils sont beaucoup plus risque-averse, puisque déjà, ils ont beaucoup moins d'enfants en moyenne que les autres pays, les parents des autres pays. Et surtout, traditionnellement, c'est très bien vu de suivre les règles, même en Chine. Donc, quand je leur ai annoncé que je n'allais pas continuer dans le métier de finance, mais créer une boîte qui vend des choses. On ne savait pas ce qu'on allait vendre. Ils comprenaient vraiment pas. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. C'était quand même moi qui décidais.
La distance.
La distance fait que c'est moi qui décidais. On s'est lancé avec mon ancien associé Stéphane dans la recherche de ce projet. Et on pensait avoir des investisseurs. Quand j'ai démissionné de ma boîte pour me lancer là-dedans. Sauf que l'argent qu'on pensait avoir a mis plus d'un an et demi pour arriver. bien sûr, vous savez, je ne savais pas, mais beaucoup de gens disent oui, ça nous intéresse d'investir. Mmh. À la fin, quand il s'agit de sortir le chéquier, c'est beaucoup plus dur. Mmh. Donc, on a dû pitcher plus de centaines de personnes. Il n'y avait pas vraiment de fonds VC actifs.
C'était pas structuré comme aujourd'hui.
C'est ça, oui. Donc, c'est surtout les individus qui investissaient. Donc, on a dû passer plus d'un an, vraiment, juste à pitcher nos idées. Bien sûr, ça nous a beaucoup aidé à mûrir aussi dans l'idée. Mais c'était assez dur pour moi, mmh. puisque j'avais pris un risque... contre l'avis de mes parents, mm-hmm. de quitter une voie confortable. Et surtout, je n'avais pas de revenus. Et
comment tu vis ?
Voilà, comme je t'avais dit, qui était ma première priorité, c'est de payer à mes parents une pension, etc. Comment je vis ? Je pense que probablement mon associé m'avait un peu aidé, mais il y avait quand même le loyer de plusieurs centaines d'euros qui tombaient tous les mois. Donc, c'était assez... ce qui me stressait le plus, c'était la carte de séjour. Vous savez, quand vous êtes étranger, vous venez en France, vous n'avez pas forcément le droit de rester, sauf si vous avez un travail. Et je n'avais pas de travail, moi, à l'époque, parce que je cherchais à monter une boîte. Je pense que le monde a probablement un peu changé depuis, mais ça reste assez difficile. C'est surtout ça, en fait, qui était le plus angoissant pour moi. Je me suis dit, non seulement j'ai démissionné d'un beau métier qui payait bien, en plus, si ça ne marche pas, je vais devoir rentrer en Chine.
L'humiliation,
l'échec. Mais heureusement, l'argent des investisseurs qu'ils ont promis est finalement arrivé. Voilà. Ça a mis plus d'un an. Mais on a pu monter notre première boîte. Et ça
a été un succès. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins que Made.com. Mais MyFab, tu l'as revendu.
Oui, alors c'était une boîte de vent flash. La vent flash, en fait, je l'ai découvert plus tard, c'est essentiellement sur les deals. Donc, un peu comme vent privé, mais probablement aussi comme Groupon, c'est qu'on propose sur une base d'inscrits des deals qu'on pouvait sourcer par-ci, par-là. Donc, c'est surtout les produits qui existent par ailleurs. Et on faisait tout sauf les produits de marque, parce que c'est vraiment le créneau chasse gardée de vent privé. On voulait faire les produits qui ne sont pas forcément brandés. Et c'était... on sourçait en fait des lots de stock par-ci, par-là. Et le succès, en tout cas le début, était assez rapide. Et les gens en fait aiment le deal. Ce qui est plus dur en fait dans l'opérationnel, c'est plus de faire de la marge brute, faire un bénéfice là-dessus. Puisqu'en fait, on sourçait des deals qui marchaient très bien. Et quand le deal commence à décoller, en fait, le produit commence à marcher, il y a d'autres acteurs comme Cdiscount ou Carrefour qui va venir et dit « Super ce produit, on va aussi l'acheter, sauf qu'on va le vendre moitié prix. » Et ça tuait un peu les momentum. Et on est obligé, du coup, d'aller chercher d'autres deals. C'est toujours une recherche perpétuelle.
Tu te souviens d'un produit que tu as vendu à l'époque qui t'a surpris par son succès ou...
On vendait vraiment de tout. On vendait des baby food, on vendait des vélos, on vendait aussi des poufs. Voilà, des poufs. On avait vendu plus de centaines de poufs.
Des centaines de milliers de poufs.
C'est énorme.
C'était presque l'idée de Made.com là, qui germait, non ?
Alors, donc, il y avait beaucoup de produits qui marchaient, qui vendaient, en fait. Mais le segment qui marchait le plus, c'est celui du meuble. Et ce qui m'a donné un peu l'assurance que pour ma prochaine boîte, je pourrais me spécialiser vraiment sur le secteur de la décoration et le mobilier.
Raconte-nous brièvement le moment de la vente. Donc, tu vends MyFab assez vite, je crois, dans l'histoire de.
C'était en 2009, lors d'investissement du groupe Kering dans la société. J'avais fondé la boîte avec Stéphane. Donc, on était tous les deux, on était vraiment 50-50. Il y avait d'autres associés aussi autour. Mais Stéphane et moi, en fait, on dirigeait un peu la boîte à deux. Et avec le succès, en tout cas perçu de l'époque, on a passé beaucoup de temps à gérer deux choses qui sont en parallèle, mais on se parlait de moins en moins. Donc, je me sentais en tout cas, et j'étais assez jeune, franchement, de l'époque, je me sentais un peu disconnecté de mon associé dans la vision des choses. Et donc, lors d'une levée de fonds, moi et mes investisseurs ont décidé de vendre nos parts. Et Stéphane et ses investisseurs ont décidé de continuer. C'était un peu comme ça s'est fait. Mm-hmm. C'était beaucoup d'argent pour moi et c'est très, très bon retour pour mes investisseurs. Mais c'était assez tôt dans l'aventure. Mais ça me convenait plutôt bien puisque, comme je t'ai dit au début, le driver de ma motivation, c'était surtout d'avoir une pension pour payer.
Et donc là, tes parents comprennent à ce moment-là quand tu vends ta boîte, ils se disent bon.
Voilà, je leur ai acheté un appartement, je l'ai constitué un petit nid pour payer leur pension. Mm-hmm. Donc mon devoir étant fait, maintenant je pense que ce qui me motive, c'est vraiment créer des projets qui me font apprendre, qui me fait apprendre vraiment dans le quotidien. Puisque mon devoir financier étant rempli vis-à-vis mes parents.
Et donc à ce moment-là, tu bascules sur le projet Med.com aussi assez vite finalement. Mm-hmm. Et tu décides avec tes autres associés de le monter à Londres. Pourquoi à Londres à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'attire plus particulièrement? Est-ce qu'il y a des raisons vraiment précises?
Non, c'est vraiment je pense que c'est des hasards. Je suis parti de MyFab. J'ai commencé un peu. J'ai aussi quitté la France. Je voulais un peu voyager juste parce que j'avais plus de boulot. J'avais vendu mes parts. J'ai voyagé un peu. Et pendant mon voyage, en fait, j'ai rencontré un de mes investisseurs dans Made.com, Brent Oberman, qui est aussi lui entrepreneur, qui avait des bureaux en fait à Londres. Et il m'a dit, celui en fait qui m'a convaincu de venir à Londres et créer un projet dans ses bureaux. Voilà.
C'était le pitch de départ, c'est ça. Je viens à Londres,
voilà,
dans mon bureau.
Voilà mes bureaux. En fait, lui, il avait une boîte, donc c'était les fondateurs de Last Minute, qui avait monté sa deuxième boîte qui s'appelait MyDeco. Donc, c'est une place de marché qui mettait en relation les designers et les clients. Il avait levé beaucoup d'argent. Sauf qu'il n'y avait pas de business model forcément. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'audience, mais il avait du mal à monétiser. Donc, les deals, c'était pour moi de... Et moi, je vais monter un truc dans le mobilier déco. Le deal, en fait, pour moi, c'est que je pourrais utiliser en fait non seulement ses bureaux, mais aussi une part d'audience de ce qu'il avait créé qui s'appelait MyDeco. Qui était vraiment une solution de facilité quand on lance dans un nouveau secteur. Mais ce qui me rassurait surtout, c'est que j'avais dans mon capital quelqu'un qui était vraiment connecté dans l'écosystème londonien que je ne connaissais pas du tout. Sans Brain, je pense que je ne serais jamais allé tout seul à Londres pour créer une boîte. Créer une boîte seul, c'est déjà assez difficile. Créer une boîte seul dans un pays que tu ne connais pas, je pense que c'est juste mission impossible.
Donc là aussi, pas de regret, bien évidemment. Et à quel moment tu sens que le projet bascule vers le succès qu'il est aujourd'hui? Est-ce que ça se fait tout de suite? Est-ce qu'il y a des éléments à un moment donné, des curseurs que tu places un peu différemment pour y arriver?
Oui, alors, ça n'a jamais été un succès dès le début. Le début de Made a été un peu lent. Relatif à MyFab en tout cas, on était une marque de mobilier, une des premières à être pure play de mobilier en ligne. Le deal était que les gens allaient nous acheter des canapés qui coûtaient 500 ou 800 euros d'une marque inconnue et qu'on livrait à 10 ou 12 semaines. Donc c'était c'était pas forcément une
promotion. Sans les voir.
Voilà, c'était en fait il y avait quand même cet effort à convaincre les gens. Je pense que les premiers clients sont venus sur Made.com par miracle. C'est les fous, voilà, c'est les gens qui ont acheté des produits qui n'ont pas de marque, livrés à 12 semaines, voilà. Mais les premiers clients ont été agréablement surpris par la qualité du produit. Et ils ont parlé autour d'eux. Et ensuite, les deuxièmes clients sont venus à travers le bouche-à-oreille, qui sont aussi satisfaits. Et je pense que le bouche-à-oreille a petit à petit fait que la marque s'est installée dans le secteur. Donc, c'était vraiment assez progressif et organique. Mm-hmm. Mais à force de doubler la taille tous les ans, Vous savez que ça va très vite à la fin.
C'est comme ça, tu doublais le chiffre d'affaires chaque année.
Oui, maintenant on ne double plus tous les ans, mais on double tous les deux ans. Mais ouais. ça reste probablement beaucoup de bouche à oreille et à l'organique.
Ouais. Tu restes au capital de Met.com.
Oui,
donc tu t'es retiré de l'opérationnel déjà il y a quelques années, il y a deux ans.
Ouais. Ouais. Mmh.
Est-ce que tu continues d'intervenir quand même? Est-ce que tu regardes ça de près encore?
Oui, je suis un gros actionnaire encore dans Met.com. Et je suis toujours au board, mais c'est vrai que je ne passe plus que probablement 10 ou 20% de mon temps pour Met.com, ce qui me laisse beaucoup de temps pour faire autre chose.
D'où typologie,
voilà.
Et Met.com a aussi été l'une des premières marques nées sur Internet à se transformer à créer une boutique physique. Mm-hmm. C'était à Paris. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Cézanne l'a mm-hmm. fait.
Oui.
Voilà, il y en a beaucoup. Est-ce que pour toi, c'est une tendance de fond qui va marquer un peu un renouveau dans l'e-commerce, dans la façon dont on fait le commerce? Et la deuxième question, c'est est-ce que typologie, tu pourrais envisager également une version physique pour la distribution?
En fait, tu sais, on a créé notre premier showroom. Ce n'est pas les boutiques, parce qu'en fait, on ne vend pas les produits pour Met.com. Ce sont les showrooms dans lesquels les gens peuvent toucher et essayer le produit. Et ensuite, ils achètent en ligne. Et le raisonnement derrière, c'est que si tu veux acheter le produit, Internet est très puissant, puisque ça te donne un nombre de choix illimité, il y a un prix bien plus attractif. Mais il n'y a pas que l'achat dans la construction de marque, il y a aussi l'engagement avec le client et un contact physique crée des émotions qui sont difficiles pour une marque qui est que pure play en ligne. Et après, pour nous, on ne considère pas la boutique ou le showroom comme un canal de vente, puisque le showroom qui est à Paris ou le showroom qui est à Londres, on l'a créé finalement 3 ou 4 ans après les avoir lancés sur Internet. Tu sais, c'est les baux qui sont longs, qui sont des coûts fixes, etc. Donc aujourd'hui, la logique, c'est de dire on crée nos chiffres d'affaires sur Internet, mais tant qu'on peut se permettre, puisqu'on voit une base de vente assez stable, on pourra alors probablement créer un showroom pour améliorer l'expérience client et convaincre quelques retardataires, les gens qui sont un peu sceptiques, via les showrooms.
Mais, et tu penses que typologie, ça pourrait, c'est une marque qui pourrait exister aussi dans le monde physique?
Probablement à terme, pour moi, qui sommes pour typologie en fait ou Met.com qui sont des marques digitales, la priorité reste en ligne. C'est-à-dire que si on ne fait pas marcher Internet et qu'on vient ensuite se concurrencer dans le monde de la distribution, le monde physique, c'est des métiers en fait qui sont très très bien connus et maîtrisés par d'autres acteurs. On leur apprend rien. Ce qui nous différencie, c'est surtout le côté en ligne. Et donc, c'est ça qu'il faut faire marcher d'abord.
Et justement, aujourd'hui, tu parlais des choses qui ont évolué entre ta première, deuxième et troisième boîte aujourd'hui avec typologie. Il y a un élément qui est clé pour les marques nées sur Internet, c'est les réseaux sociaux, notamment Instagram.
Bien sûr, oui.
Comment tu approches ce canal aujourd'hui? Est-ce que tu en fais le premier canal, le premier vecteur de communication? Comment mm-hmm. tu les approches?
Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est une opportunité aujourd'hui en tant que marque de pouvoir parler aux consommateurs directement. En fait, la plupart des produits cosmétiques sont distribués via les supermarchés, les pharmacies ou Sephora. Donc, quand tu es une marque qui conçoit les produits, par définition, tes clients, ce n'est pas les clients finaux, c'est Sephora ou pharmacie. Donc, tu connais très peu le client final. Et quand on est pure play, donc on vend directement depuis Internet, on a la chance pouvoir communiquer avec les clients directement. Donc, ça nous donne deux bénéfices. Un, c'est que les clients connaissent beaucoup mieux la marque et les valeurs qu'on représente. Alors que quand on vend les produits dans une pharmacie ou Sephora, les clients connaissent la marque, surtout par rapport aux bénéfices du produit. Et pour moi, en fait, c'est important, quand on achète un produit, quel que ce soit, que tu adhères non seulement à la fonctionnalité du produit, mais à la valeur que représente la marque. Et typologie, c'est une marque qui veut non seulement vendre les produits efficaces et sains, mais surtout qui veut changer un peu les codes de l'industrie. on veut promouvoir un peu la transparence de la liste d'ingrédients. On veut un peu casser cette façon de vendre un peu du bullshit marketing, des promesses qu'on ne peut pas délivrer facilement. Je pense qu'il y a tout ce côté transparence un peu militant que les gens peuvent adhérer. Et Instagram ou comme tous les autres réseaux sociaux, c'est une opportunité pour nous de communiquer ces messages que tu ne pourras pas faire sur un rayon d'étagère. Et la deuxième chose qui est hyper importante, c'est le feedback. Pour nous, l'ambition, c'est de lancer plein de produits assez rapidement et de connaître en fait un peu le retour client assez vite pour améliorer les prochains lancements. Et le cycle de feedback est hyper important pour nous parce que ça impacte la vitesse de lancement et de prochains lancements. Et sur Internet, on a quasiment la réaction des ventes tout de suite, mais aussi des feedbacks si les produits ont été bien livrés, si les produits ont plu et si y a des choses à améliorer. Et c'est quand même des forces énormes quand on incrémente l'amélioration continue sur des semaines et des mois. À la fin, on arrive juste à des propositions beaucoup meilleures.
D'accord. Et je voulais qu'on revienne un petit peu sur Med encore un instant, parce que là, on est dans un contexte, alors on change un peu de sujet, mais on est dans un contexte de Brexit, que toi, tu as vécu aux premières loges, puisque tu étais à Londres au moment où le vote a eu lieu.
Bien sûr.
Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais lu que tu disais que tu avais vraiment un sentiment anti-immigration très fort à ce moment-là. Donc j'aimerais que tu me racontes, est-ce que tu te souviens vraiment exactement où tu étais déjà quand le vote a eu lieu, qui a surpris beaucoup de monde, et voilà, quel est le sentiment que tu as ressenti à ce moment-là, et est-ce que ça t'a aidé aussi à te dire voilà, je vais rentrer en France ou...
Oui, alors c'est une coïncidence, je suis rentré en France un peu de temps après le Brexit. C'était en tant que, en fait, l'écosystème tech à Londres étant un peu très différent, très différent de celui de Paris, il est composé principalement des immigrés, comme moi. La plupart des entrepreneurs qui sont tech, en tout cas, à Londres, que je connaissais, sont pas de Londres ou de l'Angleterre, sont les gens qui viennent de l'Afrique du Sud, du Portugal, de Chine, enfin vraiment de partout. Quand il y a eu lieu le Brexit, on a finalement qui était un résultat que personne ne s'attendait, puisqu'on vivait un peu dans notre microcosme de Londres, mais aussi du système tech qui est très dominé par l'immigration. On s'est un peu senti déjà on comprenait pas, mais surtout on s'est senti un peu pas bienvenu dans le pays qui nous a accueillis. Et ce qui était très dur aussi, c'est pour les employés de Made.com, parce qu'on vendait, on avait plus de la moitié du personnel à Londres qui était européen, en dehors de Londres, puisque on vendait en Allemagne, il y a une équipe allemande qui était basée à Londres, on vendait en France, il y a une équipe en France, française qui était basée à Londres. Et c'est là où on s'est posé la question de, à long terme, quel est l'avenir pour Made.com ? Est-ce qu'on pouvait continuer vraiment avec toute une équipe cosmopolite que à Londres ? C'est là où on a aussi décidé de créer des bureaux en Europe, des bureaux régionaux à Berlin, à Paris, à Amsterdam, pour vraiment diversifier un peu le risque. C'était un peu la réaction. Moi, je trouvais ça assez dommage. Mais en tant que business, on devait réagir.
Une réaction pure business, mais d'un point de vue plus personnel, comment tu sens à ce moment-là ? Tu sens que finalement, tout peut basculer d'un jour à l'autre. Je veux dire, le Brexit fait que ton aventure et les emplois que tu as créés sur place, les emplois indirects que tu as pu créer sur place avec Made.com, tout ça, ça peut être, on peut tirer un trait dessus. Est-ce que tu retiens une leçon de ça ou...
Bien sûr, oui. C'est, alors, la leçon, personnellement, que j'en tire... je ne sais pas s'il y a des leçons vraiment à appliquer dans les prochains, parce que c'est quand même les événements macro qui sont difficiles à anticiper. Et en tout cas, personnellement, tous les systèmes de valeurs et de bienveillance dans lequel on vivait a un peu basculé du jour au lendemain. En fait, tout ce que je me suis dit, c'est qu'il y a tout cet enthousiasme des gens à créer, à innover. Si ça ne se passe pas en France, à Londres, probablement ça va se passer ailleurs. C'est simplement une réaction qui sera assez naturelle. Moi, je suis venu en France à peu de temps après, pas forcément par Brexit, mais plutôt par regroupement familial. Je pense que mon instinct est de dire, est-ce que Paris pourrait être le prochain Londres, capitaliser un peu sur tout l'enthousiasme et tous les efforts du gouvernement qui a beaucoup encouragé l'entrepreneuriat avec la fiscalité et aussi toute une nouvelle génération d'entrepreneurs qui sont de meilleurs en meilleurs en fait en France, à émuler un peu le système londonien.
Et tu penses qu'aujourd'hui, tu voyages beaucoup, tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs à succès dans le monde entier, est-ce que vraiment il y a une perception de la France et de Paris notamment qui pourrait être la prochaine, comme on dit, la prochaine capitale, une des prochaines capitales tech, ou est-ce qu'on est un peu dans un doux rêve éveillé?
Non, je pense que le Paris a pris, comparé à ma première boîte qui était à Paris et ma troisième boîte 10 ans après, aussi à Paris, le monde a vraiment changé. Ma première boîte, c'était dans le Sentier. Et Sentier, à l'époque, c'était un quartier de textile. Rue d'Aboukir, c'est vraiment...
C'était pas encore la Silicon Sentier.
Oui, aujourd'hui, c'est le Silicon Sentier avec tous les unicorns que tu peux citer. Mais tu vois, il y avait 10 ans, il n'y avait pas tout ça. Je pense que c'est le succès des boîtes tech français qui ont réussi, ça a beaucoup aidé à changer la perception. Les projets comme Station F, bien sûr, a beaucoup, beaucoup contribué. Et surtout, en fait, je vois autour de moi, à l'époque, tout le monde voulait aller dans la finance, dans les banques d'affaires. Aujourd'hui, tout le monde veut aller dans les startups. Et ça, en fait, je me dis, tant qu'il y a du talent, il y a un flux de talent en continu qui vient dans l'écosystème, c'est le nombre de talents, mais aussi la qualité de talent qui va faire que le système va émerger à la fin. Mm. Donc la France a cette chance d'avoir toutes ces écoles d'ingénieurs qu'on n'a pas forcément en Angleterre. Il y a aussi tous les meilleurs talents créatifs. Paris, c'est quand même la capitale du design, de fashion. Et je pense que ces deux types de talents, ces atouts, sont les atouts uniques que n'ont pas d'autres villes. Il y a vraiment tout aujourd'hui pour réussir en France.
Et quand tu vois ce qui se passe en Chine avec l'explosion de certaines boîtes qui n'existaient pas du tout, même il y a 5 ans, est-ce que ça ne te donne pas envie d'aller un peu au cœur de la machine, essayer de comprendre comment ça se passe, essayer d'en profiter?
Oui, alors en Chine, c'est encore autre chose. Ils ont le marché chinois, mais aussi dans une certaine mesure le marché américain, ont des atouts que nous, on n'a pas. C'est les marchés juste 10 fois ou 100 fois plus gros. Donc, quand on monte un projet en France, on s'adresse naturellement au marché français. Et c'est souvent pas les mêmes tailles et les mêmes économies d'échelle. Et ça, c'est un inconvénient énorme par rapport à une boîte française qui veut que rester en France. Et c'est aussi une sorte de constat que j'ai fait en rencontrant certains entrepreneurs ici. Le réflexe, c'est de dire, je vais monter une boîte et mon marché est français. Sauf que quand on vivait à Londres, le marché est tout de suite le marché anglophone global. Donc ça, je pense que de ce point de vue-là, j'aimerais apporter une différence, en tout cas avec mon vécu, à créer des projets ici qui n'a pas une ambition locale, mais vraiment une ambition globale. Et là, je pense qu'avec tout le... Quand je regarde ce que j'ai fait pour Made.com, par exemple, au début de Made.com, il y avait plusieurs, probablement une dizaine de boîtes de start-up dans le mobilier qui ont commencé plus ou moins en même temps que nous. Et 10 ans après, il ne reste probablement plus que nous, une ou deux plus boîtes beaucoup plus petites. Et une des différences qu'on a fait, c'est qu'on a diversifié et internationalisé les opérations très, très vite. Donc, on a pris le risque, malgré le jeune âge de la marque, d'aller en avant et créer d'autres pays. Et à terme, ça nous a donné une échelle, une économie d'échelle et de coûts d'achat juste très différents, et aussi des talents qu'on avait pu recruter, qui sont juste beaucoup plus qualifiés, qui nous a permis d'aller un peu au-delà des autres concurrents. Je pense que ça, c'est des choses qui vont être assez bénéfiques pour l'écosystème de start-up françaises.
Et alors, une dernière double question, et après, je vais te laisser aller dans ta journée qui va être bien dense. La première, c'est comment tu fais aujourd'hui pour... est-ce que tu as des petits conseils ou des petites choses que tu as réussi à appliquer pour gérer une vie très dense, à la fois personnelle, professionnelle, tu l'as expliqué un petit peu. Et comment tu te projettes, si tu prends un peu de recul, dans quelques années, voilà, où est-ce que tu te projettes, dans quelles conditions, et voilà.
Alors, donc la première question, quel conseil pour la vie dense? Bon, je pense que dense, ça, quand on a une vie de famille et qu'on a une carrière à côté, peu importe ce qu'on fait, il faut s'organiser. En fait, dans mon cas, j'ai fait un métier de mon choix. Donc ça, je pense que quand on travaille de longs horaires et quand on aime ce qu'on fait, c'est pas vraiment une difficulté, c'est excitant. Le matin, je me lève, j'ai envie d'aller au boulot, comme on a dit au début. Et c'est vrai que quand je faisais, tu sais, au début, mes entretiens avec beaucoup de managers dans les grosses boîtes de cosmétiques ou de parfums, et j'ai ressenti, beaucoup d'entre eux, une envie de faire un métier qu'ils aiment. Mais ce qu'ils faisaient, ils n'aimaient pas. Et parfois, en fait, certains ont eu le courage de dire si ça ne me plaît pas, je vais me lancer soit à créer ma boîte ou rejoindre une start-up. Mais la plupart d'entre eux, ils ont quand même cette perception de risque, de se dire finalement, c'est risqué. Bien sûr, c'est risqué, mais faire un métier que tu n'aimes pas pendant 10 ans ou 20 ans, je pense que c'est le plus gros risque que tu peux prendre. C'est quasiment...
c'est aussi une sonnerie de mort,
quasiment. C'est la manière sûre de ne pas réussir la vie, entre guillemets, si tu passes 8 ou 10 heures tous les jours à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Donc, un de mes conseils, si j'en avais un, c'est de choisir ce que tu fais, de ta journée en tout cas, et tu pourras mieux appréhender une vie dense par la suite. Et ensuite, la deuxième question.
La dernière, c'est vraiment comment tu te projettes quand tu prends un peu de recul dans quelques années, mm-hmm. à la fois sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Est-ce que tu imagines monter encore 4, 5, 6 autres boîtes? Est-ce que tu as des envies particulières?
Dans ma première boîte que j'ai eu la chance de vendre, je pense que c'est une leçon qui est assez riche. Et donc, en tout cas, ce qui m'a appris, c'est ce qui me motive, c'est pas forcément de créer une boîte pour la vendre. Ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt créer une boîte qui aura un impact sur les consommateurs, sur l'industrie dans laquelle on évoluait. Ce qui me motive aussi, surtout, c'est d'apprendre tous les jours. Ce qui m'a encouragé à prendre un peu de recul dans Made.com pour me relancer dans l'entrepreneuriat de nouveau, c'est surtout, je me suis dit, au bout d'un moment, le métier de celui de manager une grosse boîte, c'est pas forcément celui dans lequel j'apprends le plus. Tu vois, il y a un peu la routine et en revanche, lancer une nouvelle boîte avec un secteur différent, des gens différents, c'est là où il y a le plus de challenge et le risque pour moi. Et je m'éclate parce que j'apprends tous les jours. Et ce que j'aimerais voir dans les prochaines années, c'est de continuer à apprendre tous les jours et d'affronter un nouveau challenge. Et le jour où je me considère que j'aurais arrêté d'apprendre, je pense que je ferais autre chose. Mais je pense que je serai toujours dans la recherche permanente de choses à apprendre.
Tu as déjà une petite idée en tête quand même, un secteur sur lequel tu aimerais travailler un jour?
Alors avec typologie déjà, on a envie de... On sait pas... Ce n'est pas qu'un projet de soins ou de santé, mais c'est plutôt une envie de changer un peu les habitudes de consommation. Donc, c'est beaucoup plus large que le secteur de soins et cosmétiques. Mais il faut bien se concentrer au début dans un secteur pour créer une marque. Et je pense qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin pour aller... probablement, une fois le projet un peu plus mature, à nous lancer dans d'autres secteurs qui sont le marché de la consommation. Voilà, donc là, c'est un peu tout et rien, mais je pense qu'on a... Tout est possible, en tout cas.
Ouais. D'accord. Bah merci beaucoup, Ning. Bonne journée.
Merci beaucoup, Guillaume.
Vous venez d'écouter Take Off. Pour retrouver l'intégralité de cet épisode et tous les autres, vous pouvez nous suivre sur iTunes, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.